commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter un petit peu sur la situation de la France, vue sous un angle peut-être plus économique que politique. Néanmoins, les deux sont évidemment étroitement mêlés. Après la conférence de presse de 2h30 tenue par le président de la République, qui a donc balayé un champ très large, nous avons avec nous pour nous accompagner dans cette discussion aujourd'hui Éric Le Boucher. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric Le Boucher, qui est éditorialiste et qui est écrit à la fois dans Les Échos, c'est chaque lundi matin, et
dans Les Échos, c'est chaque vendredi.
Et dans L'Opinion, chaque lundi matin, où L'Opinion. Et vendredi, voilà. Dans Les Échos. En tout cas, merci d'être avec nous, Éric Le Boucher. Donc, on a eu une conférence de presse du président de la République, globalement, sur la situation de la France, où il s'est montré assez satisfait, en disant « Regardons le point de départ où nous en étions il y a 6 ans, maintenant 7 ans, d'ailleurs, qu'il est au pouvoir, et voyons où nous en sommes et où nous allons. » Donc, il ne voyait que du positif, d'une certaine façon. Notamment en s'appuyant sur le fait que la France connaît une croissance faible, certes, mais supérieure à celle des autres, notamment à celle de l'Allemagne, qui est, elle, plutôt en récession. Et puis, sur l'ensemble du paysage, fort peu inquiet du taux d'endettement du pays. Et les questions que l'on commence à se poser, c'est de savoir, mais j'entre peut-être un peu trop vite dans la discussion, si on peut à la fois avoir le taux d'endettement que nous avons, financer la transition écologique, qui est quelque chose de considérable, tout en étant aux normes en budgétaires, si j'ose dire, en évitant donc la spéculation contre la France, et ainsi de suite. Mais peut-être au point de départ, Éric Le Boucher, est-ce que vous avez partagé cette vision du président de la République disant « c'était déjà beaucoup mieux que ça n'était il y a 7 ans ».
Ah, donc faire une sorte de bilan. Moi, je pense que l'économie va mieux qu'il y a 7 ans, et en effet, française. Parce que, oui, la croissance est un petit peu supérieure à celle des autres. C'est nouveau. On était en général inférieur à l'Allemagne. Maintenant, on est au-dessus. C'est propre aussi aux difficultés allemandes. Et puis, parce que surtout, il y a une sorte d'optimisme dans l'économie française aujourd'hui. Les grands groupes vont très bien. On assiste à beaucoup de start-up, beaucoup d'envie d'investir, beaucoup de création et d'innovation. Et ça, c'est très nouveau. Il y a une sorte d'entrepreneuriat qui remonte en fait à moitié à François Hollande, mais qui s'est consolidé considérablement. Et puis la France attire aussi des investissements étrangers. Donc, je dirais qu'il y a eu... Le problème français n'est plus l'économie, alors que c'était le cas il y a 10 ans. C'est plus l'économie. Maintenant, c'est clairement l'État qui coûte très cher et qui est quand même très peu efficace. Donc, on a changé un peu de sujet. Et donc, je crois que Emmanuel Macron peut être content de ce résultat. L'économie, c'est un problème qu'il a, je simplifie, parce que l'économie reste trop petite, on est encore en déficit commercial, etc. Mais beaucoup de progrès ont été faits.
Jean-Claude Casanova.
Oui, je suis d'accord avec Éric. Je dirais, pour mélanger l'économie et la politique et raisonner sur le 21e siècle, le 21e siècle en France, l'an 2000, a commencé par une profonde erreur politico-économique, c'est l'erreur Chirac-Raffarin, c'est-à-dire ne pas voir que le problème central de la France était le problème de la compétitivité. Et ça, Hollande l'a compris avec la politique de l'offre, mais il n'a pas su obliger le Parti Socialiste à la comprendre. On s'est trouvé dans une situation ridicule où Hollande comprenait et les socialistes ne comprenaient pas. Et Macron, lui, l'a compris, et donc la réforme du marché du travail qu'il a faite contre le monde syndical a réussi. Progressivement, le taux de chômage a baissé. On va voir si la situation ne s'améliore pas en termes de croissance, continue à baisser, mais enfin, l'orientation est bonne, et il persévère. L'expression qu'il utilise, le réarmement, me paraît très juste. L'économie française a besoin de musculation. Donc, il avance bien sur le nucléaire, d'ailleurs les écologistes deviennent silencieux sur cette question, l'opinion française le suit, on avait relâché sous la pression des écologistes, renoncé au cap nucléaire, il reprend le cap nucléaire, il voit le problème scientifique, recherche, développement, productivité comme un problème essentiel, il pense au développement des entreprises, à la musculation des entreprises, donc je crois que son orientation est bonne, il reste, comme vient de le dire Eric, le problème de l'État et de la dépense publique, et qui est lié évidemment le problème de la dette. Alors l'Europe vient de changer sa réglementation des finances publiques, il y a une réglementation plus souple, mieux adaptée, je crois qu'il y a un progrès, et je pense que le gouvernement s'engagera dans la voie fixée par l'Europe en cette matière.
Éric Le Boucher.
Oui, alors si on revient donc à l'État, c'est vrai que c'est aujourd'hui ça le problème. La France dispose d'un État plus important qu'ailleurs, que partout ailleurs, et de dépenses sociales plus importantes que partout ailleurs. On est les champions du monde. Et les Français sont pourtant mécontents d'un peu tous les services publics, de l'école, des trains, de l'hôpital, évidemment. Et grosso modo, de leur position sur les territoires, beaucoup se sentent abandonnés. Et donc, c'est ce problème-là que maintenant, il va falloir s'attaquer, auquel il va falloir s'attaquer. Et alors, Emmanuel Macron, à nouveau, estime qu'il faut investir. Et donc, il a investi dans l'école, il a considérablement amélioré le sort des professeurs en distribuant des améliorations de salaire comme jamais. Et il a fait ça aussi à la santé, avec le Ségur de la santé. Et ça va continuer puisque Gabriel Attal a annoncé 32 milliards de plus dans la santé. Alors, tout ça est bien, ce sont des investissements nécessaires, en plus de ce que vous avez dit, Jean-Marie, c'est-à-dire tous les investissements pour l'écologie, pour le réchauffement climatique. Mais évidemment, tout ça fait de grosses dépenses, et donc l'État n'est pas prêt de diminuer de taille. Donc je pense qu'en parallèle de toutes ces dépenses, il faut réorganiser en profondeur l'État. Mais là, on manque beaucoup de savoir-faire. On ne sait pas comment faire. On sait que la politique du rabot n'a pas marché. Tous les dispositifs précédents, le RGPP, etc., n'ont pas marché. Et donc, on est un peu devant une équation qu'on ne sait pas résoudre. Comment rendre plus efficace l'État ? Alors qu'on y investit énormément. En plus, dernier point, c'est vrai que les syndicats sont à la bagarre pour que on ne parle pas d'efficacité ou de mérite dans l'État. Donc on reste au simple demande des syndicales de plus d'effectifs et de meilleurs salaires. Donc il va falloir résoudre cette équation-là. Elle est pas du tout simple.
Jean-Claude.
Oui, par exemple, l'avancement au mérite plutôt que l'avancement à l'ancienneté. Enfin, il y a le besoin de rendre l'État plus efficace, c'est difficile, mais en même temps, surtout c'est difficile dans un État aussi centralisé que la France. Et ensuite, il y a quand même dans la dépense publique française une charge sociale excessive que l'on peut améliorer sur l'emploi et par l'emploi et par la productivité, parce que il ne faut pas, je crois, on ne peut pas, il serait dangereux politiquement d'augmenter la pression fiscale, mais on peut pousser les Français à être plus productifs et donc à fournir de ce point de vue plus de recettes et permettre à ce moment-là une efficacité plus grande de la dépense publique.
Alors si on regarde ce qui est devant nous, il y a la fin du quoi qu'il en coûte. Et dans cette logique-là, un certain nombre d'aides vont s'arrêter, notamment des aides qui concernent les carburants et qui sont en train d'agiter, par exemple, le milieu des paysans et des agriculteurs, déjà en révolte en Allemagne pour les mêmes raisons. et qui est une révolte qui peut aussi bien se transmettre en France. Donc c'est là une première vraie difficulté, parce que on ne peut plus, comme on a vécu avec le Covid et depuis le Covid, sur une logique très simple, un problème, une aide ou un chèque. Et donc, si on met fin à cette période-là, et qu'en plus, on interrompt et on arrête des aides qui avaient permis à des entreprises ou à des personnes physiques de traverser la tempête, on va se heurter à de gros problèmes sociaux, Éric Leboucher.
Oui, je pense que le problème agricole, il est devant nous, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a une transformation considérable de la production agricole, de passer d'une agriculture chimique à une agriculture biologique et plus durable. C'est une transformation radicale comme considérable qu'il faut faire, et qu'il faut faire d'ailleurs dans tous les pays, pas simplement en France, mais dans tous les pays du monde. Le problème du prix de l'essence, du prix du gasoil et des subventions au gasoil s'ajoute pour les agriculteurs à ce problème de transition écologique qui est très difficile pour eux et risque effectivement de les priver encore plus, si vous voulez, de marge de manœuvre financière pour investir dans de nouvelles culture. Donc, on comprend le problème. Mais globalement, si vous voulez, pour résoudre le problème écologique, il va falloir que l'énergie carbonée coûte plus cher, de façon à ce qu'on l'utilise moins. Donc, j'espère qu'on va trouver une solution technologique, je ne sais pas encore très bien lesquelles, avant qu'on invente des tracteurs électriques, peut-être. Mais c'est une grosse difficulté qui n'est pas française, Jean-Marie, qui est mondiale.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes aujourd'hui avec Éric Leboucher, éditorialiste au journal Les Échos et au journal L'Opinion. Nous évoquons la situation économique à travers ce qu'en a dit le président de la République dans sa conférence de presse. Il y a maintenant, de façon posée d'ailleurs par le ministre des Finances, un des ministres des Finances les plus qui bénéficie de la plus grande longévité depuis longtemps, à savoir Bruno Le Maire, le problème de la dette. Et donc, le problème de la dette, un économiste de renom, je crois que c'est Olivier Blanchard, disait « Il est illusoire de penser qu'on va résoudre le problème de la dette, on va l'atténuer, le maîtriser à travers une croissance beaucoup plus forte. » Et que c'est une illusion de penser qu'on va avoir donc une croissance beaucoup plus forte. Qu'en pensez-vous, Éric Leboucher ?
Oui, cette illusion-là, c'est celle qu'a le président de la République française. Il pense que la solution, c'est la remise au travail des gens qui vont donc sortir des aides sociales pour, au contraire, être contributeurs aux aides sociales. Donc, c'est le plein emploi. Et puis, c'est pour ça qu'il s'active depuis maintenant 7 ans sur ce sujet. Et la croissance, donc plus on fait de croissance, plus on a l'état de recettes et plus il pourra payer tout ce dont nous parlons. Cette stratégie-là, ça passerait si l'on veut, encore que, en effet, Blanchard pense que ça passe pas, que les dépenses à venir d'écologie sont trop fortes, mais ça passerait si il y a une forte croissance. Or, la croissance, parallèlement, elle est pas très bonne. Elle est curieusement positive. Je dis curieusement parce que l'an dernier, à la même époque, tout le monde pensait qu'on allait plonger dans une récession. Elle n'a pas eu lieu. Miracle, l'inflation s'est dégonflée très profondément dans tous les pays. Et donc, c'est un peu mystérieux. Et donc, l'économie a échappé à la récession. Mais quand même, la croissance n'est pas excellente. En France, le gouvernement espère que cette année, elle sera de 1,4%. Tous les experts pensent qu'elle sera en dessous de 1%. Ça change tout. Évidemment, cette différence change tout parce que c'est ça qui va faire que les comptes publics vont rester dans le rouge, durablement dans le rouge, et que la dette va continuer de croître ou au moins stagner comme ça. Et ce qui va évidemment poser un problème de remboursement de plus en plus lourd pour l'État français. Donc, l'équation n'est pas résolue. le système macronien, l'espoir du président de la République de s'en sortir par l'emploi et la croissance, ça ne colle pas.
Jean-Claude Casanova.
Oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter la quantité de travail, d'accroître la productivité et d'investir l'avantage de taux d'intérêt plus élevé, c'est que les investissements sont mieux calculés, donc permettront un plus grand accroissement de productivité. Il n'y a pas de solution de problèmes sociaux sans accroissement de la production.
Alors l'approche sociale ou sociologique de ce gouvernement, c'est quelque chose sur lequel d'ailleurs le nouveau Premier ministre Gabriel Attal s'était positionné avant même de devenir Premier ministre, c'est la thématique des classes moyennes, puisque l'idée est de favoriser des classes moyennes qui considèrent que entre d'une part ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui n'ont besoin d'aucune aide et ceux qui au contraire ont besoin des aides et vivent des aides en quelque sorte, ce noyau central de la société française souffre du fait que, en gros, disent on fait rien pour nous, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui finançons le système de protection sociale, mais nous n'avons en gros rien en retour. Comment regardez-vous cette approche gouvernementale qui va marquer, je pense, le centre de préoccupation du gouvernement Attal, Éric Le Boucher?
Oui, la question de la classe moyenne, c'est la question du populisme. Hein. Parce que la désagrégation de la classe moyenne, c'est elle qui est la racine du populisme. Les gens sont en colère, les gens sont désespérés, les gens sont angoissés du futur. Pourquoi ? Parce que, l'économie depuis 20 ans est plutôt défavorable à la classe moyenne. Alors après, il faut regarder les détails, c'est pas vrai en France, où les inégalités ont pas cru, mais ça a été très vrai aux États-Unis, et comme les États-Unis sont dominants sur tous les sujets, y compris intellectuels, c'est venu aussi en France, cette espèce de sentiment de disparition de la classe moyenne. S'ajoute la transformation du travail, la transformation des qualifications, qui donne beaucoup à tous ceux qui ont des hauts diplômes, on a moins besoin de gens qui ont de petits diplômes, les robots on les remplace, etc. Et l'intelligence artificielle va encore aggraver le problème. Donc il y a la classe moyenne qui était le cœur de la démocratie et le cœur de l'économie, disons, fordienne depuis la grande crise des années 30 jusqu'aux années 2000, cette grande classe moyenne a le sentiment de ne plus avoir d'avenir. C'est un problème mondial, c'est pas un problème français. Donc on le découvre pas en vérité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Celui qui a fait beaucoup, c'est Joe Biden. Il a non seulement continué de créer des emplois, parce qu'il faut effectivement que cette classe moyenne, d'abord, elle ait un emploi, mais il faut que cet emploi soit mieux rémunéré, et d'une part, et ait des perspectives d'amélioration encore. C'est-à-dire que les gens retrouvent, par requalification, une perspective de carrière. C'est la carrière qui disparaît. Tout ça, ce sont des problèmes très lourds, très graves. Je suis un peu étonné que Monsieur Attal semble découvrir ça. C'est quand même le cœur du problème populiste depuis maintenant 15 ans. Quelles sont les solutions ? Les solutions sont la réindustrialisation, puisque les emplois industriels sont meilleurs que les emplois de service, sont mieux payés, mieux rémunérés et en général plus intéressants. Donc, il faut faire beaucoup de ces politiques de requalification, de formation et aussi industrielle. C'est ça la clé. Tout le reste, c'est c'est un peu rien du tout. C'est de la magie. Tout ce que propose ou ne propose pas, parce que le Front National, le Rassemblement National, les populistes en général ne proposent rien, sauf des politiques magiques.
Il faut voir qu'en grande partie, aux États-Unis comme en Europe, ce que vous appelez le populisme est en grande partie lié à une immigration excessive de travailleurs non qualifiés, ce qui pèse sur le niveau de salaire et qui empêche d'une certaine façon de créer des dépenses sociales qui seraient mieux utilisées en dépenses favorables à l'accroissement de la productivité. Autrement dit, quand on veut faire une politique de l'offre, il faut réduire l'offre de travail non qualifiée. Et je suis étonné d'ailleurs de voir que le patronat français trouve un remède dans l'immigration, parce que ça ne fera que compliquer le problème, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis, où la grande difficulté de Biden devient aujourd'hui le problème de l'immigration. Et si on veut rehausser la classe moyenne, il faut revenir à des périodes dans lesquelles l'offre de travail devenait rigide. Et à ce moment-là, ça oblige à une offre de travail plus qualifiée, et des investissements le permettront, ce qui permettra des accroissements de revenus de la classe dite moyenne.
Qu'est-ce que vous appelez une offre de travail rigide ?
Une offre de travail rigide, c'est une offre de travail qui réduit l'entrée en France de travailleurs non qualifiés, qui coûte socialement, qui crée un degré d'hétérogénéité qui provoque le mécontentement social et qui fait que dans toute l'Europe, il y a un glissement à droite de ce fait.
Et Éric Le Boucher.
Oui, je pense, moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Claude. On ne peut pas avoir une politique d'immigration qui effectivement va dans le sens contraire de la politique économique. À un moment, il faut être cohérent. Il a raison.
Quelle est la solution alors? Parce que on vient d'avoir un texte sur l'immigration.
Non, mais tous les pays ont décidé d'essayer de limiter l'immigration d'emploi, hein, tous les pays européens, c'est quand même ce qui s'est décidé par la loi européenne, qui va être beaucoup plus dure, et donc de limiter les flux. Après, il y a tout le stock, des gens qui sont là, et des générations, il faut les former, c'est tout le problème de l'école, oui, bien sûr, oui.
Bien, voilà pour ce vaste panorama de ce qu'il y a à faire sur la table du gouvernement. Par ailleurs, quand on regarde les discussions qui sont déjà ouvertes, je reviens à la case déficit. Il me semble que dans les discussions ou dans les articles ou dans ce que l'on entend des politiques eux-mêmes, il y a une donnée qui est toujours passée sous silence ou oubliée, c'est que notre taux d'endettement, qui est, je crois, de l'ordre de 120% du PIB, je crois, c'est cela, Eric, il me semble.
112.
Alors que l'endettement japonais, par exemple, c'est 150 ou 160% du PIB. Mais on oublie, nous, que nous sommes en fait protégés par l'euro. Puisque la France est un des pays qui connaît le plus fort déficit commercial, un des plus forts taux d'endettement, et qui néanmoins ne s'en aperçoit pas, parce qu'il y a le bouclier de l'euro. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ?
Mais le bouclier, il est percé quand même, parce que les taux d'intérêt en Allemagne et en France ne sont pas les mêmes. En Italie, en Espagne, chaque pays a quand même, pour sa propre dette, des taux d'intérêt qui sont différents. C'est ce qu'on appelle, par rapport à la différence, on compte en gros en Europe en différence par rapport au pays dominant, c'est-à-dire par rapport à l'Allemagne, et on appelle ça le spread, combien les Allemands paient, ou combien on paie plus cher, voilà, ça s'appelle le spread. Eh bien, pour l'instant, le spread, ils sont restés calmes, ils sont, je sais plus, 0,7, mettons, pour 100. Si jamais les marchés financiers se mettent à douter de la France, comme ils ont douté de la Grèce il y a quelques années et de l'Italie, eh bien, nos taux d'intérêt augmenteraient. Donc, on est protégé, mais pas complètement quand même par l'euro.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, nous sommes à la marge, c'est-à-dire, après tout, l'Italie s'en est sortie, la Grèce s'en est sortie, et je crois que la France en est consciente et peut s'en sortir si elle garde le cap, si vous voulez. Je ne vois pas d'ailleurs quelle politique économique alternative on pourrait proposer à l'égard de la politique économique que définit Macron, si vous voulez. Moi, je ne cherche pas à adhérer absolument à tout ce que dit Macron, mais je ne vois pas quelle est la politique différente que l'on pourrait proposer compte tenu de la situation française.
Pour conclure, Éric Le Boucher, vous adhérez à ce que vient de dire Jean-Claude Casanova. Vous aussi, vous considérez que ben, pour le moment, il n'y a pas mieux?
Ah, pour le moment, il n'y a pas mieux, mais surtout, il y a même... L'autre, ce serait quoi? Bah, ce serait de sortir de l'euro. Il n'y a pas de solution. On ne peut pas non plus, en France, ce que proposent les Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, c'est effectivement d'augmenter les dépenses encore, encore et encore et encore. Et donc, de creuser le déficit. Ça, ce serait... À un moment, ça va faire craquer le système européen. Et on aura des, on aura ce que j'ai appelé les spreads là très forts sur la France. Donc on va plus pouvoir endetter. Donc ça s'appelle une crise financière. La France sera en faillite. Donc il n'y a pas d'autre solution que cette politique de l'offre, cette politique du travail, cette politique de la productivité dont parlait Jean-Claude Casanova.
Voilà, on va rester sur cette note positive à l'endroit du président de la République. La sphère politique, on l'examinera dans d'autres émissions. On aura l'occasion évidemment d'y revenir parce qu'on est au seuil d'une bataille qui va être très importante, qui est la bataille pour les élections européennes. En attendant, merci Éric Le Boucher de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur cet aperçu de la situation économique du pays.
Merci à
je
vous.
Je rappelle donc qu'on peut vous lire donc le lundi dans
l'Opinion
et le vendredi dans Les Échos. Merci voilà. À toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.